Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est « Les dons miraculeux, devaient-ils cesser ?» Première partie. Nous savons que de plus en plus d'églises se créent de nos jours, et la plupart d'entre elles prétendent que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit leurs fondateurs à les établir. Les membres citent généralement les miracles qu'ils font pour appuyer cette idée. Pour beaucoup, les miracles sont la preuve par excellence de l'approbation de Dieu et de la foi authentique. Pour eux, c'est par la présence de miracles que l'on peut réellement savoir que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Les témoignages abondent, mais ce qui nous intéresse est de savoir ce que la Bible en dit. Des dizaines, voire des centaines de groupes religieux, y compris des catholiques, des animistes, les membres des Assemblées de Dieu et de l'Église du Réveil, des baptistes, des chrétiens célestes, des apostoliques et bien d'autres témoignent des miracles qui se produisent parmi eux. Nous ne cherchons ni à recommander le témoignage d'une dénomination, ni à parler mal d'un groupe religieux quelconque. Nous voulons simplement qu'on examine les Écritures sur ce sujet et qu'on cherche ainsi à déterminer tout simplement si le Saint-Esprit se manifeste de nos jours par les miracles. Nous savons qu'il le fait par les bonnes qualités qu'il produit dans la vie des chrétiens, mais le fait-il aussi par les miracles? Avant de nous lancer dans le vif du sujet, il serait peut-être utile, pour éviter de se mal comprendre les uns les autres, de définir certains mots que nous allons employer. Un miracle est un événement où les lois de la nature sont suspendues, mises de côté en quelque sorte. Le miracle est une intervention directe de la puissance spirituelle et ne nécessite ni temps ni moyens naturels. Dieu a certainement le pouvoir de faire des miracles, mais Satan et ses anges ont aussi la possibilité d'en faire. Rappelons-nous pourtant que toute manifestation de la puissance de Dieu n'est pas proprement dit un miracle. Néhémie 9, verset 6 se réfère à deux sortes de manifestations de sa puissance. Ce verset dit que Dieu a fait les cieux et la terre, ce qu'il a fait par miracle, et que Dieu donne la vie à toute chose, ce qu'il fait par des moyens naturels. Prier Dieu n'est pas forcément demander un miracle. Dieu exauce de nombreuses prières par des moyens secondaires. Par exemple, une guérison ou les médicaments, le repos, les défenses naturelles du corps contre la maladie et l'infection, la bonne nourriture et une bonne attitude mentale jouent un rôle, est toujours une guérison que Dieu effectue et pour laquelle on doit le remercier. Mais ce n'est pas un miracle. Une guérison instantanée dans laquelle aucun de ces autres facteurs ne peut figurer, une guérison telle que la Bible décrit souvent, est un miracle. Précisons que le peuple de Dieu jouit d'une protection contre certaines manifestations de la puissance satanique. Nombre 23, verset 23, par exemple, dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Cette protection est bien une œuvre de Dieu, et elle est un phénomène spirituel plutôt que naturel. Elle ne figure pas cependant dans notre discussion des miracles bibliques. Définissons aussi les dons miraculeux, qu'on appelle également les dons de l'Esprit. Les dons qui sont mentionnés dans la Bible étaient des pouvoirs miraculeux que Dieu accordait à certaines personnes. Ces pouvoirs dépendaient plus de la volonté de l'Esprit que de la foi de l'individu. 1 Corinthiens 12, verset 11 dit « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses » les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le don de guérison n'était pas le fait d'être souvent exaucé quand on demandait à Dieu de guérir quelqu'un. Certainement, Dieu continue d'écouter nos prières et d'agir pour nous exaucer. Mais quand on parlait d'un don de guérison, il s'agissait d'un pouvoir que Dieu accordait et qui permettait de guérir sans échec. En Actes 3, verset 6, Pierre ne dit pas qu'il priera Dieu de guérir le mendiant boiteux. Il dit avec confiance, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà de quoi nous parlons quand nous posons la question, le Saint-Esprit se manifeste-t-il par les miracles de nos jours? La première chose que nous devons constater à ce sujet est que la Bible dit que ces dons cesseraient. Dans le contexte de 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14, l'apôtre Paul aborde des problèmes relatifs aux dons spirituels. Au chapitre 12, il traite surtout du problème de la division et la jalousie. Certains membres s'exaltaient à cause des dons qu'ils avaient reçus et qu'ils croyaient supérieurs. D'autres se minimisaient et d'autres étaient jaloux et boudés. Paul leur rappelle qu'ils sont tous membres du même corps et que chacun devait employer son don pour édifier les autres. Chaque membre était important. Au chapitre 13, il leur rappelle d'abord que l'amour compte infiniment plus que ces dons qui les divisaient. L'essentiel est l'amour et non pas les dons miraculeux. Puis, à partir du verset 8, il raisonne que ces dons ne sont que temporaires. Voilà donc une raison que les frères corinthiens ne doivent pas se laisser diviser à leur sujet. Dans le chapitre 14, il a continué pour donner des principes qui devaient réglementer l'usage des dons dans l'Église tant que les dons existeraient. Écoutez donc ce passage où il est dit que les dons étaient temporaires. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 10. Paul dit que les langues, les prophéties et la connaissance, sous-entendu surnaturel, disparaîtront. Nous nous posons la question, quand? La réponse est quand le parfait sera venu. Alors qu'est-ce que le parfait? Il est évident que les choses partielles dont Paul parle ici sont des révélations de Dieu. Les langues, les prophéties et la connaissance étaient les moyens par lesquels Dieu faisait connaître sa volonté. Puisque le parfait, et on peut aussi traduire ce mot par le complet, doit remplacer ces révélations partielles, il est logique de conclure que le parfait est aussi une révélation. N'avons-nous pas dans la Bible une révélation parfaite, complète, de la volonté de Dieu? Mais oui. Quelques-uns ont suggéré que le parfait est Jésus et que les dons doivent continuer jusqu'à son retour. Le passage parle quand même de ce qui est parfait, une chose, et non pas de celui qui est parfait, une personne. Si Paul voulait dire que les langues et les prophéties disparaîtraient quand Jésus serait venu, il aurait dit « quand celui qui est parfait sera venu » au lieu de « ce qui est parfait ». Paul continue ainsi au verset 11 à 13. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Quand Paul parle des choses de l'enfance, il les compare à ses dons. Comme les jouets sont normaux, propres à l'enfant, mais non pas à l'adulte, les dons miraculeux appartenaient au début de l'Église, à une période de son développement. Après, on n'en aurait plus besoin. Ensuite, Paul affirme que l'on verrait plus clairement quand la révélation parfaite serait en place. Et encore, il se sert d'une comparaison. Il dit que tant que la révélation était partielle, on voyait de manière obscure, comme dans un miroir. Dans nos miroirs modernes, on voit une image très nette et exacte de nous-mêmes, comme si nous regardions quelqu'un en face. Mais à l'époque de Paul, les miroirs n'étaient que du métal poli, comme si on regardait son image sur la portière d'une voiture neuve. On se reconnaît, mais l'image n'est pas tout à fait nette. Quand Paul écrivait aux Corinthiens, les frères n'avaient pas encore le Nouveau Testament complet, comme nous l'avons aujourd'hui. À ce moment, il n'y avait que très peu des 27 livres du Nouveau Testament qui avaient été écrits. Il y avait nécessairement des points qui restaient obscurs, mais qui pour nous ont été rendus clairs par les écrits que les apôtres ont produits par la suite. Finalement, Paul met en contraste avec ses dons temporaires trois qualités qui seront toujours à rechercher par le chrétien: la foi, l'espérance et l'amour. Tandis qu'il dit que les langues et les prophéties passeraient, il dit que ces trois qualités demeurent. Elles devaient continuer d'avoir toute leur importance, même quand les dons miraculeux auraient cessé. Mais cela pose un problème pour ceux qui disent que les dons devaient survivre jusqu'au retour de Jésus et la fin du monde. L'espérance ne continuera pas d'être une qualité chrétienne après le retour de Jésus. Paul dit en Romains 8, verset 24: Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Actuellement, nous espérons. Nous attendons avec confiance le retour de Jésus et la récompense céleste qu'il va nous donner. Quand il viendra, on n'aura plus besoin d'espérer. On sera en possession de ce que nous voulons. Pareillement, une fois que Jésus sera revenu, la foi aura servi son but. 2 Corinthiens 5, verset 7 dit: Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne voyons pas Jésus maintenant. Par la foi, nous savons qu'il vit et qu'il règne. Quand il reviendra, ce ne sera plus par un témoignage que nous connaîtrons la gloire de Jésus, nous le verrons directement. Après avoir dit que les langues et les prophéties disparaîtraient, Paul dit que la foi, l'espérance et la charité demeurent. Évidemment, il devait y avoir un temps entre la disparition des dons miraculeux et le retour de Jésus, qui fera que l'espérance et la foi ne soient plus nécessaires. Nous vivons actuellement dans ce temps-là, après la disparition des dons miraculeux, mais avant le retour de Jésus. Beaucoup n'ont jamais remarqué le passage biblique que nous avons examiné aujourd'hui. D'autres ne l'ont jamais étudié avec soin comme nous venons de le faire. Ce qu'il enseigne est tellement inattendu pour beaucoup de personnes qu'elles risquent de le rejeter d'office. Pourtant, il est en accord avec plusieurs autres enseignements clairs de la Bible. Pour tester la vérité de ce que nous venons de dire, continuez cette étude avec nous. Et que la Bible soit votre seul guide.
Comme un cerf à tes bras, après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant, et s'écrie en le suivant: Ô mon Dieu, quand dorsera-ce que mes yeux verront ta face? Pour pain je n'ai que mes larmes, et nuit et jour en tout lieu. Lorsqu'à mes dures alarmes, on me dit: que fait ton Dieu? Je regrette la saison